Chapitre 10 Tempête.
Essayons ceci, dit Yéma. Il remonta le plus possible l'anneau de métal le long de la jambe décharnée de la jeune fille, prit une bande de linge mouillé et l'enroula sans serrer autour de la cheville à vif. Puis il la recouvrit de la bague de fer. C'est mieux ? Sa patiente ne répondit pas. Mais dès qu'il écarta les mains, elle se remit à frotter sa cheville contre son entrave. « Non, non !» fit-il à mi-voix. Il posa les doigts sur sa jambe, et elle cessa son mouvement. Mais elle ne dit rien et ne le regarda pas comme d'habitude. Encore une journée comme celle-là, et elle serait infirme à vie. Il n'avait à sa disposition ni herbe, ni huile, aucun médicament ni pansement digne de ce nom, rien que de l'eau de mer et des chiffons. La jeune fille limait peu à peu ses propres tendons, apparemment incapable de s'empêcher de frotter sa cheville contre le métal.
« Laisse tomber !»
dit dans le noir une voix d'un ton amer.
« Elle est folle. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Et elle va crever avant d'arriver en Chalcède de toute façon. Tu fais durer le plaisir avec tes nettoyages et tes pansements, c'est tout. Laisse-la partir, si c'est le seul moyen qu'elle a trouvé de s'en aller. »
Yéma leva sa bougie et scruta les ténèbres, mais ne parvint pas à savoir qui s'était exprimé. Dans cette partie de la cale, il n'arrivait même pas à se tenir debout, et les esclaves enchaînés avaient une liberté de mouvement encore inférieure, malgré la mer grosse et le roulis de la vivacia qui les entrechoquait sans cesse, chair contre bois. Ils détournèrent les yeux de la flamme en battant des paupières, comme si c'était le soleil qui brillait dans l'obscurité. Il poursuivit son chemin le long de la chaînée, en s'efforçant d'éviter de marcher dans les immondices. La plupart des esclaves restaient silencieux et impassibles sur son passage, réservant leur énergie pour survivre. Il vit un homme assis qui clignait les yeux en s'efforçant d'attirer son attention. « Puis-je vous aider ? » demanda-t-il à mi-voix.
« Ouais, est-ce que t'as la clé de ces chaînes ?»
fit d'un ton sarcastique quelqu'un près de lui tandis qu'un autre lançait
« Comment ça se fait que tu te balades librement ?»«
Pour vous maintenir en vie !»
répondit Yéma évasivement.
Quel lâche il faisait ! Il craignait que ces gens ne le tuent s'ils apprenaient qu'il était le fils du capitaine.
« J'ai un seau d'eau de mer et un linge, si vous voulez vous laver. »«
Passe-moi le tissu !»
fit le premier d'un ton bourru. Yéma plongea le linge dans l'eau et le lui tendit en s'attendant à ce qu'il se nettoie le visage et les mains. Nombre d'esclaves paraissaient puiser un certain réconfort dans ces rites d'ablution. Mais non. L'homme rampa aussi loin qu'il le put pour placer le chiffon sur l'épaule nue d'un de ses voisins inertes.
« Tiens, bouffara !»
dit-il, presque sur le ton de la plaisanterie. Et il frotta doucement une grosseur sanguinolente qui saillait sur l'épaule de l'homme. L'intéressé ne réagit pas.
« Bouffara s'est fait mordre méchamment il y a quelques nuits. J'ai attrapé le rat et on l'a partagé, mais il ne se sent pas dans son assiette depuis. »
Il soutint le regard de Yéma avec des yeux à l'éclat soudain brillant. Mais c'est d'un ton doux qu'il demanda
« Tu crois que tu pourrais le faire sortir d'ici ? S'il doit mourir dans les fers, que ce soit à la lumière, en plein air, sur le pont ?»«
C'est la nuit en ce moment, » répondit stupidement Yéma.
« Ah bon ? »
fit l'homme étonné.
« Bon, eh bien qu'il meure à l'air pur au moins. »«
Je vais me renseigner, » dit Yéma mal à l'aise.
Était-ce la vérité ? L'équipage ne s'occupait pas de lui. Il mangeait à part, dormait à part. Certains des hommes qu'il avait connus au départ de Terrilville le regardaient parfois avec un mélange de pitié et d'horreur devant ce qu'il était devenu. Et les nouveaux matelots embarqués à Jamelia le traitaient comme un esclave. S'il s'approchait d'eux, il se plaignait de sa puanteur et le repoussait à coups de pied le cas échéant. Moins il attirait l'attention, mieux cela valait. Il en était venu à désigner le pont et le gréement sous le vocable général d'extérieur. Son nouveau monde, c'était l'intérieur. Univers d'odeurs suffocantes, de chaînes encroûtées de crasse et d'humains qui s'en trouvaient prisonniers. Quand il montait sur le pont afin de remplir son seau, il avait l'impression de s'aventurer en pays étranger. Les hommes s'y déplaçaient librement, ils criaient, riaient parfois. Le vent, la pluie et le soleil touchaient leurs visages et leurs bras nus. Jamais de tels plaisirs qui lui paraissaient autrefois aller de soi n'avaient paru plus extraordinaires à Yéma. Il aurait pu rester à l'air libre, il aurait pu rentrer peu à peu dans le quotidien d'un simple mousse, mais non. Il était descendu dans les cales et ne pouvait plus désormais oublier ni se cacher ce qui s'y passait. Aussi, chaque jour, il se levait au soleil couchant, emplissait son seau, prenait ses chiffons soigneusement nettoyés et se rendait dans les cales pour offrir aux esclaves le maigre confort d'une toilette à l'eau de mer. L'eau douce aurait été bien préférable, mais il n'y en avait qu'une quantité limitée à bord. Yémin devait donc se contenter de ce qu'il avait et il s'en servait pour nettoyer les plaies que les esclaves ne pouvaient soigner seuls. Il ne passait pas voir chaque homme et chaque femme tous les jours, ils étaient trop nombreux, mais il faisait ce qu'il pouvait, et quand il se roulait en boule au matin, il dormait à poing fermé. Il toucha la jambe immobile de l'homme. Elle était brûlante. Il n'en avait plus pour longtemps.
Tu pourrais mouiller le linge de nouveau, s'il te plaît.
La voix et l'accent de celui qui avait parlé étaient étrangement familiers aux oreilles de Yémin. Il essaya de se rappeler où il les avait entendus tout en trempant le chiffon dans l'eau qui restait au fond du seau, non pour le nettoyer, car il y avait beau temps que l'eau n'était plus propre, mais pour le rafraîchir. L'homme le lui prit des mains pour essuyer le front et le visage de son voisin. Après quoi, il replia le linge et le passa sur son propre visage et ses mains.
« Je te remercie, » dit-il en rendant le tissu à Yémin.
Avec un brusque frisson, la mémoire revint au jeune garçon.
« Vous êtes de Moile, n'est-ce pas? Près du monastère de Kelpiton ?»
L'homme eut un sourire bizarre, comme si ses paroles le peinaient et lui réchauffaient le cœur à la fois.
« Oui, » répondit-il à mi-voix. « Oui, c'est exact. »
Plus bas encore, et il se reprit.
« Ou plutôt, c'était exact avant qu'on m'envoie à Jamélien. »
« J'habitais à Kelpiton !»
fit Yémin dans un murmure qui résonna comme un cri à ses propres oreilles.
« Je vivais au monastère. Je devais devenir prêtre. Je travaillais parfois au verger. »
Il mouilla le linge et le tendit de nouveau à son interlocuteur.
« Ah, les vergers !»
La voix de l'homme s'éloigna comme il se penchait pour baigner doucement les mains de son compagnon.
« Au printemps, quand les arbres fleurissaient, on aurait dit des cascades blanches et roses, et leur parfum était un vrai bonheur.
On entendait les abeilles, mais c'était comme si les arbres eux-mêmes bourdonnaient. Et puis, une semaine plus tard, quand les fleurs tombaient, le sol en était tout blanc et rose.
Et un brouillard vert apparaissait sur les branches quand les premières feuilles poussaient, chuchota l'homme.
« Ça me sauve !» gémit-il soudain. « Es-tu un démon venu me tourmenter ou un esprit messager ?»«
Ni l'un ni l'autre, » répondit Yémin. Il se sentit soudain honteux. « Je ne suis qu'un garçon avec un seau et un bout de chiffon. »
« Tu n'es pas prêtre de ça ?»«
Plus maintenant. »
Le chemin qui mène à la prêtrise peut être sinueux, mais une fois qu'on l'a emprunté, on ne le quitte plus.
La voix de l'homme avait pris une cadence particulière, et Yémin comprit qu'il récitait un extrait d'anciennes écritures.
« Mais on m'a retiré du séminaire. »
« On ne peut en retirer personne, et nul ne peut le quitter. Toutes les vies mènent à ça, et chacun est appelé à la prêtrise. »
Au bout d'un moment, Yémin s'aperçut qu'il était assis dans le noir, sans autre mouvement que celui de sa poitrine qui montait et descendait au rythme de sa respiration. La bougie s'était consumée sans qu'il s'en rendît compte. Son esprit avait suivi la voie tracée par les mots de l'homme, s'étonnant, s'interrogeant. Tous les hommes étaient appelés à la prêtrise.
Même Torg? Même Kyle Havre? Oh non, tous les appels n'étaient pas entendus. Toutes les portes n'étaient pas ouvertes. Il n'eut pas besoin de signaler à son interlocuteur qu'il était revenu à la réalité. L'homme le perçut. « Va, prêtre de ça, » dit-il à mi-voix dans l'obscurité. « Apporte les petits réconforts dont tu es capable. Plaide notre cause. Implore un peu de bien-être pour nous. Et quand l'occasion se présentera de faire davantage, ça t'en donnera le courage. J'en suis sûr. » Yémin sentit qu'on lui fourrait le chiffon dans la main.
« Vous aussi, vous étiez prêtre de ça ?»
demanda Yémin à voix basse. « Je suis et reste prêtre. Un prêtre qui refuse de se soumettre à une fausse doctrine. Nul ne naît pour être esclave. Cela, je crois, ça ne le permettrait pas. »
Il s'éclaircit la gorge.
« Le crois-tu aussi ?»
« Naturellement. »
L'homme prit un ton de conspirateur.
« Un marin nous apporte à manger et à boire une fois par jour. À part lui et toi, nul ne s'approche de nous.
Si je disposais d'un objet métallique, je pourrais m'attaquer à ces chaînes. Pas un outil dont la disparition ne passerait pas inaperçue, mais n'importe quoi qui soit en métal. » Et dont tu puisses t'emparer alors qu'on ne te regarde pas.
Mais même si vous vous libériez, à quoi bon? Que peut un homme seul contre tout un équipage?
Si j'arrive à couper la longue chaîne, nous serons nombreux.
Mais que pourriez-vous faire?
Demanda Yémin avec une sorte d'horreur.
Je l'ignore. Je m'en remettrai à ça. Après tout, il t'a envoyé à moi, non ?
Il parut sentir l'indécision du jeune garçon.
Ne réfléchis pas, ne fais pas de projet, ne t'inquiète pas.
Ça te fournira l'occasion, tu la reconnaîtras et tu agiras.
Il s'interrompit.
Tout ce que je te demande, c'est de t'entremettre pour que Kello ait le droit de mourir sur le pont, si tu l'oses.
« J'oserai, » répondit Yémin malgré lui. En dépit de l'obscurité et de la puanteur ambiante, il eut l'impression qu'une petite lumière s'était rallumée en lui.
Il aurait le courage de porter la supplique des esclaves. Que pouvait-il lui en coûter?
Rien de pire que ce qui lui était déjà arrivé.
Son courage, se dit-il avec étonnement. Il avait retrouvé son courage.
À tâtons dans le noir, il chercha son seau et son chiffon.
« Je dois y aller, mais je reviendrai. »«
Je sais, » répondit l'homme à mi-voix.
« Tu voulais me voir ?»«
Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel du tout. »«
Quoi donc ?»
demanda Gantry d'un ton là. « Ce sont encore les serpents. J'ai fait ce que j'ai pu, Vivacia. Ça, le sait, j'ai essayé de les chasser. Mais leur lancer des cailloux le matin ne sert à rien si je largue des cadavres par-dessus bord l'après-midi. Je ne peux pas les forcer à s'en aller. Fais comme s'ils n'étaient pas là, voilà tout. »
« Ils me parlent tout bas, » dit Vivacia mal à l'aise.
« Les serpents te parlent ?»
Non, pas tous. Seulement le blanc. »
Elle tourna un regard tourmenté vers le second.
Pas avec des mots, pas avec la voix. Mais il s'adresse à moi et il me pousse à des actes indicibles.
Gantry dut faire un effort pour ne pas éclater de rire. Des actes indicibles énoncés sans mots.
Il chassa son hilarité. Ce n'était vraiment pas drôle. D'ailleurs, il avait parfois le sentiment de n'avoir jamais rien connu d'amusant dans toute son existence.
« Je n'y peux rien, » dit-il. « J'ai essayé, mais sans succès. »«
Je sais, je sais. Je dois me débrouiller toute seule. J'en suis capable, et j'y arriverai. Mais ce soir, Il ne s'agit pas des serpents.
De quoi alors ?
Demanda Gantry en se contraignant à la patience. Elle était folle, il en était presque sûr. Elle était folle, et il avait contribué à la pousser dans la folie. Quelquefois, il se disait qu'il ferait mieux de faire la sourde oreille quand elle parlait, comme si elle n'était qu'un esclave qui implorait un peu de miséricorde. À d'autres moments, il se sentait le devoir d'écouter ses divagations et ses peurs sans fondement, parce que ce qu'il appelait sa folie n'était rien d'autre que son incapacité à se fermer à la détresse des prisonniers détenus dans ses cales, et qu'il avait participé à créer cette masse de désespoir. Il avait installé les chaînes, il avait embarqué les esclaves de ses propres mains. Il avait attaché des hommes et des femmes dans le noir, sous le pont, sur lequel ils marchaient. Il sentait la puanteur de leur confinement, il entendait leurs cris. Peut-être était-ce lui qui était fou, car une clé pendait à sa ceinture et il ne faisait rien.
« J'ignore ce que c'est, » dit Vivacia, « mais c'est quelque chose de dangereux. On aurait cru entendre un enfant en proie à la fièvre et qui peuple l'obscurité de créatures effrayantes. Il y avait une supplique muette dans sa voix. « Fais-les partir !»«
Ce n'est que la tempête qui se lève, » répondit Gantry. « On le sent tous, et la mer grossit. Mais tu t'en tireras bien, tu es un bon navire. Ce n'est pas un petit coup de tabac qui va te gêner, »
ajouta-t-il d'un ton encourageant.
« Non. » J'accueillerais même avec plaisir une tempête qui chasserait un peu de ma puanteur. Non, ce n'est pas le gros temps que je redoute.
Alors, je ne sais pas quoi faire pour toi.
Il hésita, puis posa la question traditionnelle.
Veux-tu que j'aille chercher Yémin et que je te l'envoie?
Non. Non, laisse-le où il est.
Elle parlait de lui d'un air lointain, comme si c'était pour elle un sujet douloureux sur lequel elle ne souhaitait pas s'attarder.
« Bon, eh bien, si tu as besoin de moi, avertis-moi. »
Et il s'apprêta à s'éloigner.
« Gantry !»
fit-elle d'un ton pressant.
« Gantry, attends !»«
Oui, quoi ?»«
Je t'ai conseillé de trouver une place sur un autre navire. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Je t'ai dit d'aller travailler sur un autre bateau. »«
Je m'en souviens, »
répondit-il à contre-cœur.
« Oui, je m'en souviens. »
Et il se détourna de nouveau pour s'en aller.
À cet instant, une silhouette indistincte apparut devant lui, et il fit un bond en arrière en retenant un cri. Cependant, il reconnut aussitôt Yémin. La nuit l'avait rendu presque insubstantiel dans ses haillons, au point de lui donner l'aspect d'un spectre. Il était décharné, et il avait le visage aussi pâle que celui d'un esclave, en dehors du tatouage qui couvrait sa joue. Il empestait la cale, et Gantry recula involontairement. Il n'aimait pas croiser Yémin, et surtout pas seul dans le noir. Le garçon était devenu pour lui une accusation vivante, le rappel de tout ce que Gantry préférait passer sous silence.
« Qu'est-ce que tu veux ? »
demanda-t-il d'un ton bourru.
Mais il entendit comme une plainte dans sa propre voix. Yémin répondit avec simplicité « Un des esclaves est mourant. J'aimerais l'amener sur le pont. »«
À quoi bon s'il est mourant ?»
Gantry s'exprimait avec brutalité pour éviter de laisser libre cours à son désespoir.
« Pourquoi l'interdire dans ce cas ?»
répliqua Yémin. « Une fois qu'il sera mort, il faudra le tirer sur le pont pour se débarrasser de son corps de toute façon. Pourquoi pas tout de suite et lui permettre de mourir là où l'air est frais et pur ?»
« Pur ! Tu as le nez bouché ! Ce navire pue de la poupe à la proue !»«
Pour vous, peut-être, mais il respirerait plus à l'aise sur le pont. »«
Je ne peux pas faire monter un esclave et le laisser là. Je n'ai personne pour le surveiller. »«
Moi, je veux bien le surveiller, » proposa Yémin d'une voix douce. « Il n'est pas dangereux. Sa fièvre est si forte qu'il finira par mourir sans avoir bougé d'un pouce. »«
Sa fièvre ?»
répéta Gantry d'un ton sec.
« C'est une face de carte, alors ?»«
Non, il est dans la cale avant. »«
Mais comment a-t-il pu attraper la fièvre ? Les seuls cas se sont toujours produits chez les faces de carte. »
Il avait pris un ton furieux comme si c'était la faute de Yémin.
« C'est un rat qui l'a mordu. Son voisin de chaîne pense que c'est la cause. »
Le garçon hésita.
Il faudrait peut-être le mettre à l'écart des autres, au cas où. »
Gantry grogna. « Tu joues sur mes inquiétudes pour parvenir à tes fins. »
Yémin le regarda sanciller.
« Pouvez-vous me fournir une seule bonne raison de ne pas transporter ce malheureux sur le pont pour y mourir ?»«
Je n'ai pas les hommes nécessaires pour ça en ce moment. La mer est grosse et une tempête s'annonce. Je veux avoir tout mon quart sous la main au cas où j'aurai besoin de lui. La partie du chenal qui nous attend est difficile à négocier. Et avec une tempête, mieux vaut se tenir prêt à réagir. »
« Si vous me donnez la clé, je me chargerai de l'amener moi-même sur le pont. »«
Tu ne serais pas capable de transporter un homme adulte depuis la cale avant. »«
Je demanderai à un autre esclave de m'aider. »«
Yémin !»
fit Gantry d'un ton impatient.
« Je t'en prie !»
intervint Vivacia d'une voix douce.
« Je t'en prie, fais monter cet homme. »
Sans pouvoir se l'expliquer, Gantry refusait de baisser les bras. Ce n'était qu'un petit geste de charité, et pourtant il ne voulait pas l'accomplir. Pourquoi ? Parce que, si montrer un peu de pitié pour un mourant allait dans le sens du bien, alors... Il chassa cette idée. Il était second, il avait un travail à effectuer, et il consistait à mener le navire comme le capitaine l'entendait. Ce n'était pas à lui de décider ce qui était bien ou mal. D'ailleurs, même s'il avait regardé ses pensées en face... S'il avait dit tout haut « c'est mal », qu'aurait-il pu y changer à lui tout seul ?
« Tu as dit que, si j'avais besoin de toi, je devais t'en avertir », lui rappela le navire.
Gantry jeta un coup d'œil au ciel nocturne qu'obscurcissaient les nuages de plus en plus épais.
Si Vivacia se mettait à faire son entêté, elle risquait de doubler le travail de l'équipage durant la tempête. Mieux valait ne pas la contrarier.
« Si la mer grossit encore, des vagues balayeront peut-être le pont »
déclara-t-il à Vivacia et Yémin d'un ton d'avertissement.
« Je ne pense pas que ça dérangera beaucoup un homme à l'agonie, » répondit le jeune garçon.
« Sar !»
s'exclama Gantry, exaspéré.
« Je ne peux pas te donner ma clé, garçon, ni la permission d'amener un esclave en bonne santé sur le pont. Allons, viens !» Si je dois en passer par là pour satisfaire le bateau, je vais m'en occuper moi-même. Mais dépêchons-nous, qu'on en finisse vite. »
Il haussa la voix.
« Confrette, je te confie le bateau, je descends. Appelle-moi si t'as besoin de moi. »«
Bien, lieutenant. »«
Montre-moi le chemin, »
dit Gantry à Yémin d'un ton brusque.
« S'il y a la fièvre dans la cale avant, il faut que je voie ça moi-même. »
Yémin garda le silence tandis qu'il se rendait auprès du mourant. Il avait exposé sa requête à Gantry et ne voyait pas que lui dire d'autre. Il avait douloureusement conscience du fossé qui les séparait désormais l'un et l'autre. Gantry, bras droit et conseiller écouté de son père, était à l'extrême opposé de lui, esclave et fils indigne. En se frayant un chemin dans la cale bondée, il avait l'impression de faire pénétrer un étranger dans son cauchemar personnel. Gantry lui avait donné une lanterne qui éclairait bien mieux que les bougies dont il avait l'habitude, et elle agrandissait le cercle visible de la détresse, faisant mieux ressortir la crasse et l'avilissement qui régnait dans la cale. Il respirait à petits coups, par la bouche, technique qu'il avait mise au point au cours de ses visites. Derrière lui, il entendait Gantry tousser par intermittence, et une fois, il eut l'impression que le second avait un haut-le-cœur, mais il ne se retourna pas pour vérifier. Étant donné sa fonction, l'homme n'avait pas dû avoir l'occasion de s'aventurer dans les profondeurs des cales depuis quelque temps. Il avait des subordonnés pour cela. Quant au capitaine, Yémin pensait qu'il n'était pas descendu sous le pont depuis leur départ de Jamédia. À l'approche du mourant, ils durent se courber de plus en plus pour ne pas se cogner au plafond. Les esclaves étaient si serrés qu'il était difficile d'éviter de marcher sur eux. Ils s'agitaient nerveusement dans la lumière, et la présence de la lanterne suscitait des murmures.
« Le voilà !»
annonça Yémin, bien que ce fût inutile. Au prêtre, voisin du mourant, il dit
« C'est Guntry, le second. Il m'a permis de transporter votre ami sur le pont. »
L'intéressé se redressa en clignant les yeux dans l'éclat de la lanterne.
« La miséricorde de ça soit sur vous, » dit-il à mi-voix. « Je m'appelle Sa Hadar. »
Guntry ne réagit ni à la présentation de l'homme, ni à sa revendication de l'état de prêtre. Il paraissait, c'est du moins l'impression qu'eut Yémin, gêné par le fait de saluer un esclave. Il s'accroupit et palpa prudemment la jambe brûlante du mourant.
« Il a la fièvre, hein »
fit-il comme si personne ne s'en doutait.
« Il faut le sortir d'ici avant qu'il contamine les autres. »
Il se pencha de côté pour atteindre un des gros crampons plantés dans les membrures de la vivacia. C'était là qu'était accrochée la chaîne principale. L'air salé et l'humidité dégagée par la transpiration des esclaves entassés avaient bloqué le cadenas qui la fixait au crampon. Et Guntry dut batailler avant de parvenir à faire tourner la clé, après quoi il dut tirer sur le cadenas jusqu'à ce qu'il s'ouvre. La longue chaîne tomba parmi les ordures.
« Détache-le de ses voisins !»
ordonna Guntry à Yémin avec brusquerie.
« Puis rattache les autres et transportons celui-là sur le pont. Allons, dépêche-toi! Je n'aime pas la façon dont la vivacia affronte ses vagues !»
Yémin comprit que Guntry n'avait nulle envie de toucher la chaîne encroûtée d'immondices qui passait à travers l'anneau que chaque esclave portait à la cheville. Depuis longtemps, les excréments humains et le sang séché ne gênaient plus beaucoup le garçon. Et il suivit la rangée d'hommes et de femmes, la lanterne à la main, en tirant la chaîne derrière lui jusqu'à ce qu'il arriva au mourant, qu'il libéra.
« Un instant avant que tu l'emmènes, » fit le prêtre esclave.
Il se pencha vers son ami.
« Que ça te bénisse, toi son instrument. La paix soit avec toi. »
Soudain, vif comme un serpent, Sa Hadar s'empara de la lanterne et la jeta avec une violence et une précision extraordinaires. Yémin vit les yeux de Guntry s'agrandir d'horreur juste avant que la lampe de métal ne le heurte en plein front. Le verre explosa sous l'impact et Guntry s'effondra en gémissant. La lanterne tomba près de lui et se mit à rouler de ci de là au gré des mouvements du bateau, laissant derrière elle une traînée sinueuse de pétrole. Sa flamme brûlait toujours.
« Va chercher la lampe !»
ordonna sèchement l'esclave à Yémin tout en lui arrachant la chaîne des mains.
« Vite, avant qu'un incendie se déclenche !»
Empêcher le feu de prendre était le plus urgent. Yémin en était convaincu. Mais alors qu'il se dirigeait courbé en deux vers la lanterne, il sentit les esclaves qui s'agitaient autour de lui, et il entendit le raclement métallique de la longue chaîne qu'on retirait des anneaux. Il saisit la lampe et l'écarta du pétrole répandu par terre, puis il poussa un cri. Il s'était entaillé le pied sur un morceau de verre, mais son exclamation de douleur se transforma en hurlement d'horreur quand il vit un des esclaves libérés refermer calmement les mains autour de la gorge de Guntry, toujours inconscient.
« Non !»
s'écria-t-il. Mais au même instant, l'esclave abattit violemment le crâne de Guntry sur le crampon auquel était fixée la longue chaîne. À la façon dont la tête rebondit, Yémin comprit qu'il était trop tard. Le second était mort. Et les esclaves se libéraient à mesure que la chaîne quittait leurs anneaux de cheville.
« Bon travail, mon garçon !»
dit un esclave à Yémin qui contemplait fixement le cadavre du second. L'homme s'empara de la clé accrochée à la ceinture de Guntry.
Les événements se déroulaient trop vite pour Yémin. Il y participait, mais, en même temps, il ignorait quelle y était sa place, et en tout cas, il ne voulait prendre aucune responsabilité dans la mort du second.
« Ce n'était pas un mauvais homme !»
s'exclama-t-il brusquement.
« Il ne fallait pas le tuer !»«
Silence !»
fit sèchement Sa Hadar.
« Tu vas alerter les autres avant que nous ne soyons prêts !»
Il jeta un regard à Guntry.
« Tu ne peux pas prétendre qu'il était bon alors qu'il se prêtait à ce qui se passait à bord de ce navire.
De plus, il faut savoir se montrer cruel pour réparer des cruautés pires encore, »
ajouta-t-il à mi-voix. Si c'était un dit de ça, Yémin ne l'avait jamais entendu. Les yeux du prêtre se reportèrent sur lui.
« Songe-y »
fit-il d'un ton autoritaire.
« Aurais-tu rattaché les chaînes qui nous tenaient prisonniers ? Toi qui portes comme nous un tatouage sur le visage ?»
Et il s'éloigna sans attendre de réponse, ce dont Yémin, non sans remords, se réjouit, car il n'aurait su quoi dire.
Si, en rattachant la chaîne, il avait pu sauver la vie de Gantry, l'aurait-il fait ? Si, en rattachant la chaîne, il avait condamné tous ces hommes à une vie d'asservissement, l'aurait-il fait ?
Il ignorait les réponses à ces questions. Il regarda le visage inerte de Gantry, en songeant que le second ne devait pas les connaître non plus.
Le prêtre se déplaçait rapidement dans la cale pour détacher d'autres chaînes courantes. Les murmures des esclaves libérés semblaient ne faire qu'un avec le bruit de la tempête qui montait au dehors.
« Fouille les poches de ce salaud. Essaie de trouver les clés de ses fers !»
dit quelqu'un dans un chuchotement rauque. Mais Yémin ne réagit pas. Incapable de bouger, il regarda avec un détachement hébété deux esclaves examiner les vêtements du second. Gantry ne portait pas d'autres clés, mais les hommes s'approprièrent vivement son couteau et d'autres menus objets, et l'un d'eux cracha sur son cadavre. Yémin restait pétrifié, la lanterne à la main.
À mi-voix, le prêtre s'adressa à ceux qui se trouvaient le plus près de lui.
« Nous sommes encore loin de la liberté, mais nous pouvons l'atteindre si nous nous y prenons comme il faut. Tout d'abord, pas un bruit. Gardez le silence. Il faut libérer autant des nôtres que possible sans que personne ne se rende compte de rien sur le pont. Nous sommes plus nombreux, mais nos chaînes et notre état physique jouent contre nous. Cependant, la tempête peut peser en notre faveur dans la balance. Elle occupera peut-être les hommes d'équipage jusqu'au moment où il sera trop tard pour eux. »
Il jeta un coup d'œil à Yémin avec un sourire dur.
« Viens, mon garçon, et apporte ta lanterne. Nous devons accomplir l'œuvre de ça. »
Aux esclaves libérés, il dit
« Nous devons vous laisser dans le noir pendant que nous allons délivrer les autres. Soyez patients, soyez braves et priez. N'oubliez pas que si vous agissez trop tôt, vous nous condamnez tous, et que ce courageux enfant aura travaillé enfin. »
Puis il s'adressa de nouveau à Yémin.
« Passe devant. Il faut libérer tout le monde, cale après cale, après quoi nous prendrons l'équipage par surprise. C'est notre seule chance !»
Toujours en pleine stupeur, Yémin se mit en route.
Au-dessus de sa tête, il entendit les premières gouttes d'une violente averse s'écraser sur les ponts de Vivacia. De l'intérieur, comme de l'extérieur, la tempête qui couvait depuis longtemps s'abattait sur le navire.
Je me fous du temps qu'il fait. Je veux ce navire.
Oui, commandant.
Sorcor ouvrit la bouche comme pour ajouter un commentaire. Puis il se ravisa.
Prenons-le en chasse,
reprit Kenneth. Il se tenait dans le passe-avant et regardait la mer, agrippé des deux mains au bastingage comme un simple terrien. Devant lui, la coque argentée de la vive nef tranchait les vagues de plus en plus hautes, en luisant par intermittence comme pour l'attirer à sa suite dans la nuit. Sans le quitter du regard, il dit
« J'ai un bon pressentiment pour celle-ci. Je crois que nous allons la capturer. »
La proue de la Marietta plongea dans une lame et une explosion d'embrun inonda le pirate et son second. L'impact de l'eau glacée fit presque du bien au corps enfiévré de Kenneth, mais il faillit lui faire perdre l'équilibre. Le capitaine parvint néanmoins à rester sur place et à garder sa jambe valide appuyée sur le pont. Le navire bascula en franchissant la crête d'une vague et Kenneth dut s'accrocher de toutes ses forces à la lisse pour ne pas tomber. Sa béquille lui échappa et fut emportée loin de lui par une vague dont l'eau s'évacua par les dalles. C'est à peine s'il arrivait à tenir sur sa jambe en s'accrochant au bastingage.
« Nom de ça ! Sorcor ! Donne de l'assiette à ce bateau !»
rugit-il pour cacher son humiliation. Le second n'avait pas dû l'entendre, Il était déjà parti vers la timonerie en criant des ordres aux matelots sur son passage.
« Je vais te ramener à la cabine !»
dit la putain, toujours présente, derrière lui. Comme c'était précisément ce qu'il s'apprêtait à lui demander, cela lui était naturellement impossible à présent. Il allait devoir patienter jusqu'à ce qu'elle croie que l'idée venait de lui ou bien qu'il invente une bonne raison de descendre chez lui.
Fichue femelle!
Sa jambe valide commençait à se fatiguer et l'autre pendait, inutile, poids mort et douloureux.
Va chercher ma béquille!
Ordonna-t-il à la femme. Et il se réjouit de la voir courir de ci de là sur le pont noyé par les vagues. En même temps, il remarqua qu'elle avait acquis le pied marin et qu'elle se déplaçait à présent sans maladresse. Si elle avait été un homme, il aurait jugé qu'elle avait les qualités d'un bon matelot. Le coup de tabac s'était déchaîné avec la brutalité caractéristique des eaux où il se trouvait. Des cataractes se mirent à tomber sur le navire, tandis que le vent paraissait changer constamment de direction, et Kenneth entendit Sorcor hurler des ordres à l'équipage. Le petit grain qu'il semblait devoir affronter à l'origine gagnait en puissance et en violence. Il y avait toujours du courant dans le chenal de l'Haussière, et il pouvait être difficile à négocier à certaines marées. Mais à présent, la tempête s'y joignait pour emporter le bateau à toute allure. La vive nef courait devant eux. Kenneth s'attendait à la voir ferler ses voiles. Sorcor, lui, avait envoyé des hommes prendre des ris. Le vent et le courant poussaient déjà la Marietta assez vite, sans qu'on offre aux rafales des prises supplémentaires. Un peu plus loin en avant s'étendait l'île Tordue, et le meilleur passage se trouvait à l'est. La vive nef l'emprunterait sûrement. En conséquence, les pirates prendraient par l'ouest, en profitant de la tempête et du courant pour la doubler, puis lui couper la route. Le coup était audacieux, et Kenneth ignorait si son navire et lui-même s'en tireraient vivants. Mais, bah, ses jours étaient comptés de toute façon, et s'il ne pouvait pas mourir sur le pont d'une vive nef, autant périr sur celui de la Marietta. Sorcor avait pris la barre. Kenneth s'en rendit compte à l'entrain que mettait le navire à affronter chaque vague. Il plissa les yeux pour les protéger de la pluie battante et chercha leur proie du regard. Trois vagues passèrent sans qu'il la vît, puis il la repéra en même temps qu'il l'entendit hurler. Elle tenait mal la tempête. Ses voiles déferlées la poussaient constamment de biais contre les vagues. À la grande horreur de Kenneth, elle plongea brutalement dans un creux, disparut, puis réapparut, durement ballottée. Des silhouettes indistinctes couraient en tous sens sur ses ponts, nombreuses, mais nul ne paraissait s'occuper d'essayer de sauver le bâtiment, et Kenneth poussa un gémissement. Être à deux doigts de capturer une vive nef et la voir sombrer corps et biens à cause de l'incompétence de son équipage, non, c'était trop injuste.
« Sorcor ! »
cria-t-il pour couvrir le vacarme de la tempête. Il n'allait pas être possible d'attendre de lui couper la route. Telle qu'elle était partie, elle allait bientôt s'éventrer sur les rochers.
« Sorcor ! Rattrape-la et prépare un bon groupe d'abordage !»
Le vent et la pluie emportèrent ses paroles, et il essaya de se rendre à l'arrière en se tenant au bastingage et en sautant sur sa jambe valide. À chaque bond, il avait l'impression de plonger son moignon dans de l'huile bouillante. Tout à coup, le froid le saisit et il se mit à trembler. Les vagues devenaient de plus en plus hautes, et chaque fois qu'elles déferlaient, il ne pouvait que s'agripper de toutes ses forces à la lisse. L'une d'elles finit par faire glisser sa jambe fatiguée, et pendant un moment qui lui parut interminable, il se retint avec la dernière énergie au bastingage pendant que l'eau s'écoulait violemment sur lui avant de s'évacuer par les dalots. Puis, Éta le saisit sans se soucier de sa jambe blessée, l'obligea à passer un bras par-dessus son épaule et le releva en le tenant par la taille.
« Laisse-moi te ramener à l'intérieur !»
dit-elle d'un ton implorant.
« Non, aide-moi à me rendre à la barre. Je m'en occuperai. » « Je veux que Sorcor mène en personne un groupe d'abordage. »«
Mais on ne peut pas raisonner un navire par un temps pareil. »«
Conduis-moi à l'arrière, c'est tout !»«
Kenneth, tu ne devrais même pas te trouver dehors ce soir. »« Je sens la fièvre qui brûle en toi, je t'en prie !»
Une violente fureur s'empara aussitôt de lui. « Est-ce que je n'ai donc plus statut d'homme ? Ma vive nef est là, sa capture est imminente, et tu voudrais que j'aille me reposer dans ma cabine comme un invalide ? Maudite sois-tu, femelle ! Accompagne-moi à la barre, ou bien écarte-toi de mon chemin !»
Elle choisit de l'aider, et ce fut un trajet de cauchemar sur le pont qui penchait d'un côté et de l'autre sous les assauts de la tempête. Elle hissa Kenick le long de la petite échelle de la timonerie, comme s'il n'était rien d'autre qu'un sac de pommes de terre. Il y avait de la colère dans sa force, et quand Kenick heurta du moignon un échelon et que la souffrance faillit lui faire perdre connaissance, elle ne lui présenta aucune excuse. En haut de l'échelle, elle prit son bras comme si c'était un bout de tissu mouillé, le passa autour de ses épaules, puis souleva Kenick et le traîna jusqu'à la barre. Sorcor, n'en croyant pas ses yeux, chassa l'eau qui brouillait sa vue et regarda son capitaine bouche bée.
« Je prends le gouvernail. Notre vive nef est en difficulté. Organise un groupe d'abordage, mi-matelot, mi-pirate. Il faut nous en emparer rapidement, avant qu'elle s'engage trop loin dans le chenal de l'Ossière. »
Loin devant eux, ils aperçurent leur proie alors qu'elle se trouvait au sommet d'une vague. Elle réagissait comme une épave, poussée çà et là au gré du vent et des lames. Une rafale apporta aux pirates son hurlement désespéré quand elle plongea brusquement dans un creux de mer. Elle se dirigeait vers l'ouest de l'île tordue. Sorcor secoua la tête et cria pour se faire entendre malgré la tempête.
« Impossible de l'atteindre, vu sa façon de naviguer. Et même si on avait les hommes nécessaires, on ne pourrait pas l'aborder par un temps pareil. Laissez tomber, commandant. Il y en aura d'autres. Laissez celle-ci à son sort. »«
Son sort, c'est moi !»
rugit Kenick. Une colère démesurée montait en lui. Le monde entier conspirait contre son but.
« Je prends la barre. Je connais ce chenal. Je l'ai déjà franchi avec la Marietta. Toi, désigne quelques hommes pour donner un peu de toile afin que nous rattrapions la vive nef. Aide-moi simplement à nous porter à sa hauteur et à essayer de la drosser sur les hauts fonds. Si nous n'arrivons à rien, alors j'abandonnerai. »
Ils entendirent à nouveau la figure de proue pousser un cri, un long hurlement de désespoir qui leur glaça les sangs et qui résonna longtemps à leurs oreilles.
« Ah, ça !»
s'exclama Etta en frissonnant alors que le cri s'éteignait.
« Il faut la sauver !»
On eût dit une supplication. Elle regarda les deux hommes tour à tour. La pluie avait aplati sa chevelure sur son crâne et dégoulinait comme des larmes sur son visage.
« Je suis assez forte pour tenir la barre !» déclara-t-elle. « Si Kenick se tient derrière moi et guide mes mains, « nous arriverons à maintenir la Marietta sur son cap. »«
D'accord. »
Sorcor avait répondu si promptement que Kenick comprit que c'était là sa seule objection. Il ne pensait pas son capitaine capable de manier la barre en se tenant sur une seule jambe. À contre-cœur, il reconnut que son second avait sans doute raison.
« Exactement, »
dit-il comme s'il n'avait jamais eu d'autre projet en tête. Sorcor s'écarta pour les laisser passer. La mise en place fut délicate, mais Etta finit par poser les mains sur le gouvernail, Kenick derrière elle. Il saisit la roue d'une main pour aider la jeune femme, et de l'autre bras agrippa Etta par la taille pour conserver son équilibre. Il sentit en elle une grande tension, mais aussi une exaltation contenue. L'espace d'un instant serré contre elle, il eut l'impression d'embrasser son navire lui-même.
« Dis-moi quoi faire !»
cria-t-elle par-dessus son épaule.
« Tiens ton cap, c'est tout !»
répondit-il.
« Je t'avertirai quand il y aura une manœuvre à effectuer. »
Des yeux, il suivit la vive nef argentée qui fuyait devant la tempête. Il se tenait appuyé sur elle. Et elle sentait son poids, non comme un fardeau, mais comme un abri contre le vent et la pluie. Son bras gauche l'enveloppait et il s'accrochait de la main à son épaule. Pourtant, elle avait peur. Pourquoi s'était-elle lancée dans une telle aventure ? Etta serrait si fort les rayons de la barre que ses phalanges commençaient à devenir douloureuses et elle raidissait les bras pour s'opposer au mouvement brusque du navire. Autour d'elle, tout n'était que ténèbres, rafales de pluie et de vent et mer bouillonnante. En avant du bateau, elle aperçut soudain des éclats d'eau d'un blanc argenté, là où les vagues se précipitaient sur des rochers couverts de bernacles. Elle ignorait que faire. Elle risquait de diriger le bateau droit sur un écueil, sans avoir la moindre idée avant le choc. Elle risquait de tuer tout le monde à bord. Alors elle entendit Kenneth lui parler à l'oreille. Malgré la tempête, il ne criait pas. Sa voix n'était guère qu'un murmure. « C'est facile. Tu vas voir. Lève les yeux. Regarde devant toi. Maintenant, essaie de sentir le bateau à travers la barre. Là. Desserre les doigts. Tu n'arriveras jamais à réagir si tu étrangles le bois ainsi. Comme ça, tu peux le sentir. Il te parle, n'est-ce pas ? Qui est-ce ? Se demande-t-il. Quel est ce contact léger sur la barre ? Tiens-le avec fermeté et rassure-le. Allons encore. Donne-lui un peu de mou, pas trop, et maintiens-le ainsi. » Il parlait avec les accents qu'il prenait quand il était amoureux, d'une voix basse et murmurante, chaude et encourageante. Elle ne s'était jamais sentie aussi proche de lui, à partager son amour pour le navire qu'il guidait dans la tempête. Elle ne s'était jamais sentie plus forte, les mains serrées sur les rayons de bois de la roue, à diriger l'étrave de la Marietta droit dans les vagues. Sur le pont, elle entendait Sorcor crier des ordres aux matelots, qui prenaient des ris dans certaines voiles selon un schéma qui lui échappait encore, mais qu'elle se découvrait soudain l'envie de comprendre. Elle en était capable, et elle y parviendrait. C'était ce que le bras de Kenneth qui l'enserrait, ce que son poids contre son dos, ce que sa voix douce à son oreille lui assurait. Elle plissa les yeux contre la pluie battante, et tout à coup le froid et l'humidité trouvèrent leur place dans cette nouvelle existence. Ils n'avaient rien d'agréable, non, mais ce n'étaient plus des éléments à craindre ni à éviter. À l'instar du vent, ils faisaient partie de la nouvelle vie d'État, une vie qui l'emportait aussi rapidement que le courant entraînait le bateau, et qui faisait d'elle chaque jour un individu nouveau, un individu à qui elle pouvait accorder son respect. « Pourquoi ne peut-il toujours en être ainsi ? » demanda-t-elle. Il feignit la surprise et répondit plus fort. « Quoi ? Tu préfères la tempête qui nous pousse vers les récifs maudits à une navigation paisible sur des eaux calmes ?» Elle éclata de rire et le serra contre elle en même temps que la bourrasque et la nouvelle vie dans laquelle il l'avait plongée. « Kenneth, la tempête, c'est toi, » dit-elle. Plus bas, elle ajouta en aparté, « Et je me préfère quand je cours devant tes rafales. »